Bonjour frères et sœurs, une joyeuse fête de la Pentecôte à vous tous. Comme il s'agit d'une fête annuelle de l'Éternel, c'est notre coutume, basée sur des passages dans la Bible, de donner une offrande à Dieu, et je ne voudrais pas oublier cette instruction de Dieu et vous donner un rappel. Alors, n'oublions pas de donner notre offrande à l'Éternel en l'honneur de cette fête. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous observons la fête de la Pentecôte du Nouveau Testament. Je dis bien du Nouveau Testament parce que l'observance des fêtes que l'Éternel a données à Israël dans l'Ancien Testament, l'observance de ces fêtes est confirmée dans le Nouveau Testament. Les jours sont les mêmes. Certains symboles ont changé de signification et parfois certains aspects de ces observances ont changé de façon assez importante. Mais les jours restent les mêmes et les significations sont liées mais deviennent beaucoup plus approfondies et riches dans le Nouveau Testament. En guise d'introduction à ce sermon, j'aimerais vous rappeler, je vous ai déjà parlé de ça avant, que mon épouse et moi avons eu plusieurs fois l'occasion de visiter la nation d'Israël. La Terre Sainte, comme on l'appelle parfois, est un pays aride. Seulement 20% de la terre, 20% des terres de ce pays sont naturellement arables. Seulement 20%. Les Israéliens arrivent seulement à l'aide d'irrigation à rendre un plus grand pourcentage de leur terre fertile et arable, même très fertile. Nous étions impressionnés d'arriver à la frontière avec le Liban et la Jordanie, c'était pareil, et de voir du côté israélien une terre verdoyante et en face de voir une terre sèche et plutôt poussiéreuse. La différence était très frappante. En ancien Israël, donc, à la suite de cela, la vie de ce peuple d'agriculteurs dépendait de la pluie. Ils ne savaient pas faire l'irrigation à l'époque. La pluie en sa saison. Dieu avait placé son peuple dans un pays où il dépendait très directement de lui. Sans pluie, il n'y avait pas de moisson, et sans moisson, la vie ne pouvait pas continuer. Les Israélites savaient, par la Bible, par la parole que Dieu leur avait donnée, et aussi par leur expérience, que la désobéissance amenait la sécheresse. Les pluies ne tombaient pas dans leur saison. Et donc, ils avaient ces rappels réguliers qu'il fallait obéir à Dieu, respecter sa loi, s'ils voulaient avoir la pluie et pouvoir cultiver leur terre. Reportez-vous avec moi dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28, s'il vous plaît. Deutéronome 28, nous commençons au verset 1. Deutéronome chapitre 28 et verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et ensuite, il y a toute une liste de bénédictions qui sont prononcées, annoncées, en cas d'obéissance. Verset 12, descendons un peu plus bas. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Tu ne tomberas pas dans le besoin. Donc, une des bénédictions promises par Dieu, c'était la pluie en leur temps, dans la bonne saison. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Parmi ces malédictions, nous trouvons au verset 23. Verset 23, « Le ciel sur ta tête sera d'airain, et les terres sous toi sera de la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. » Il y avait un lien très fort entre l'obéissance à Dieu, le respect de ses commandements, et le fait de pouvoir manger la pluie. Et nous voyons en plus, par le prophète Zacharie, que Dieu fera de même dans le monde à venir, comme nous l'appelons, pendant le règne millénaire de Jésus-Christ sur terre, pour toutes les nations. Les nations qui n'obéiront pas aux instructions de Dieu ne recevront pas de pluie. Zacharie chapitre 14, un passage que nous lisons assez souvent au moment de la fête des tabernacles, les fêtes en automne. Mais nous avons une prophétie pour le royaume de Dieu ici, sur terre. Zacharie chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Encore une fois, un lien, cette fois futur, pendant le royaume de Dieu sur terre, que s'il y a une désobéissance, s'il y a un refus de respecter la fête des tabernacles, eh bien, il n'y aura pas de pluie pour l'année à venir, apparemment. Et ces nations vont bien vite apprendre l'importance de respecter la volonté de Dieu. On va observer la fête des tabernacles comme les autres fêtes de l'Éternel après le retour de Jésus-Christ. C'est une prophétie que nous avons ici. Toutes les nations le feront. À cause de ce lien entre l'observance de la fête des tabernacles et le fait que la pluie sera abondante et dans sa saison, les Juifs, à l'époque de Jésus sur terre, avaient une cérémonie de puisement et de libation de l'eau pendant la fête des tabernacles, et ça continuait pendant le dernier grand jour aussi. Je vais vous lire une description de cela, mais je veux vous décrire la source de ce texte tout d'abord. Le Mishnah, comme ça s'appelle, le Mishnah, est la première collection majeure de traditions orales juives, compilée au IIIe siècle de notre ère. Donc, ça date de très loin, et c'est une compilation de traditions orales. Voici ce que le Mishnah dit à propos de cette cérémonie spéciale concernant l'eau au moment de la fête des tabernacles. Je cite maintenant. Comment la libation d'eau a-t-elle été effectuée? Un flacon d'or contenant 3 logs, un log c'était une mesure rabbinique, 3 logs a été rempli à partir de la piscine de Siloé. Quand ils sont arrivés à la porte des eaux, ils ont sonné un tekia, un son long, une teroa, une note staccato, et encore une tekia. Le sacrificateur alors monta l'ascension de l'autel et se tourna vers sa gauche où il y avait 2 coupes d'argent. Rabbi Judah dit qu'ils étaient en plâtre mais qu'ils avaient l'air argentés parce que leur surface était assombrie par le vin. Ils avaient chacun un trou comme un museau élancé, l'un étant large et l'autre étroit afin que les 2 se vident en même temps. Celui de l'ouest était pour l'eau, et celui de l'est était pour le vin. S'il a versé le flacon d'eau dans le bol pour le vin ou celui du vin pour celui de l'eau, il avait rempli son obligation. Le rabbin Judas dit, avec une bûche, il a célébré la cérémonie de la libation de l'eau tous les 8 jours de la fête. Les 7 jours de la fête des tabernacles et le 8e jour, ce que nous appelons souvent le dernier grand jour. Maintenant, les sources diffèrent concernant quand l'eau était puisée. Nous savons que c'était déversé, la libation a eu lieu pendant le jour. Plusieurs sources affirment que l'eau était puisée la nuit avant, d'autres disent que c'était le matin. Mais je vais vous lire une description que certaines sources disent que cela décrive la cérémonie de puisement quand ils ont pris l'eau à la source de Siloé. Des pantalons et des ceintures usés des sacrificateurs, ils fabriquaient des mèches et allumaient avec eux les lampes. Il n'y avait pas de cour à Jérusalem qui n'était pas éclairée par la lumière du Beth Haïshoeva, comme il l'appelait. Des hommes pieux et justes dansaient devant la procession avec des torches allumées à la main, et ils chantaient des chants et des louanges. Et des lévites avec d'innombrables harpes, lyres, cymbales et trompettes et autres instruments de musique se tenaient sur les 15 marches menant de la cour des Israélites à la cour des femmes, correspondant aux 15 cantiques de degrés, des psaumes, les cantiques de degrés. Et c'était sur ces marches que les lévites se tenaient avec leurs instruments de musique, chantant leurs cantiques. Et ça continue, et ils descendaient pour puiser de l'eau. Peut-être que ça a eu lieu la nuit, comme ils le disent là. D'autres sources prétendent que c'était plutôt le matin. Mais en tout cas, nous savons que c'était une cérémonie très joyeuse. Et ils l'ont fait parce qu'ils étaient en train d'obéir à cette instruction que nous trouvons en Zacharie. C'est une façon pour les Juifs de dire, Éternel, notre Dieu, nous avons observé la fête des tabernacles. Nous l'observons et donc nous te demandons de nous bénir avec une pluie abondante et de saison pour l'année qui va venir. Jésus-Christ, pendant son ministère, s'est servi de cette cérémonie pour souligner une leçon importante qui touche à la signification de ce jour. Et là, ça se trouve dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 7. L'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. L'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. Là, nous lisons, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus a dit ceci parlant de l'Esprit. Il s'est servi de l'eau au moment de cette cérémonie de puisement et de libation de l'eau comme symbole du Saint-Esprit. Maintenant, nous voici aujourd'hui le jour de la Pentecôte, le jour quand Dieu a accordé son Saint-Esprit à l'Église. Et le Saint-Esprit par lequel il nous guide, il nous fortifie, par lequel il guide son œuvre sur terre, l'œuvre du Saint-Esprit est une partie très importante de nos vies. Aujourd'hui donc, je vous propose de considérer pourquoi Dieu a comparé le Saint-Esprit à de l'eau. Ceci peut nous aider à comprendre, mieux comprendre, le rôle du Saint-Esprit dans nos vies et l'importance de son activité dans notre développement chrétien. C'est ce que nous allons faire pendant le temps de ce sermon aujourd'hui. Alors, une première chose à noter à propos de l'eau. Premier point, l'eau est essentielle à la vie. L'eau est essentielle à la vie. Surtout dans la Terre Sainte, qui est un pays où il fait souvent très chaud et sec, c'était très important de reconnaître qu'on ne pouvait pas vivre sans eau. Nous perdons chacun environ 2,5 litres d'eau par jour. Et nous récupérons cette eau, normalement, par notre nourriture. Les aliments que nous mangeons nous donnent à peu près 1,5 litre d'eau, plus ou moins, chaque jour. Et les boissons que nous buvons, 1 litre à peu près. Nous ne pouvons vivre que 5 à 7 jours sans apport d'eau. C'est pas très longtemps. L'eau représente en moyenne 60% de notre poids corporel en tant qu'adulte, 31% dans nos os et 83% dans le reste du corps. L'eau transporte des nutriments vers toutes les cellules de notre corps et de l'oxygène aussi vers notre cerveau. L'eau permet au corps d'absorber et d'assimiler les minéraux, les vitamines, les acides, les glucoses et autres substances qui sont nécessaires. L'eau élimine des toxines et des déchets. L'eau aide nos corps à réguler la température du corps. Et l'eau agit comme un lubrifiant pour les articulations et les muscles. On voit que sans apport d'eau, on ne peut pas bien fonctionner, certainement pas très longtemps. Et tout comme il nous faut de l'eau pour vivre physiquement et bien fonctionner, il nous faut le Saint-Esprit pour survivre spirituellement. Sans activité du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas survivre spirituellement. Nous sommes déjà dans l'évangile de Jean, revenons en arrière, Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 3, Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas survivre spirituellement. Nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit activement en train d'œuvrer et de fonctionner en nous. Nos vies spirituelles dépendent de l'activité du Saint-Esprit en nous. En avons-nous conscience chaque jour? Est-ce que nous restons conscients de ce fait, au point de le désirer de la part de Dieu, comme nous le verrons dans d'autres points, de le demander, d'être conscient de son activité? Est-ce que nous laissons longtemps passer avant de demander un renouvellement de l'Esprit de Dieu en nous? Parfois, les gens ne boivent pas assez d'eau dans la journée ou dans la semaine, et leur corps ne peut pas se laver de l'intérieur. Un médecin nous dirait que nous avons besoin de boire une certaine quantité par jour pour profiter d'une santé maximale. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Sans sa présence, notre santé spirituelle souffre, peut amener des maladies spirituelles, des erreurs, des chutes, et ainsi de suite. Donc, l'eau est essentielle à la vie, et le Saint-Esprit est essentiel à notre vie spirituelle. Nous devons être baptisés pour recevoir le don du Saint-Esprit, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit, nous soumettre à son activité, et nous verrons d'autres choses que nous devons faire au cours de ce sermon. Deuxième point à propos de l'eau comparée au Saint-Esprit. L'eau peut ranimer ce qui apparaît être mort. L'eau peut ranimer ce qui apparaît être mort. Et dans le cas du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut donner la vie à ceux qui sont effectivement morts. Job, chapitre 14, s'il vous plaît. Livre de Job, chapitre 14. Verset 7. Job, chapitre 14, verset 7. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Une plante qui a l'air morte, et peut-être qui est techniquement morte, peut revenir à la vie quand on l'arrose. Et au retour de Jésus-Christ, des eaux guérisseuses sont promises dans les prophéties pour guérir les maladies qui auront existé auparavant. Là, nous allons trouver une prophétie intéressante dans Ézéchiel 47. Ézéchiel chapitre 47. Verset 1. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. Une question du temple qui existera. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Et c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. » Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Il y a des eaux guérisseuses qui sont promises après le retour de Jésus-Christ, qui couleront du temple de Dieu à Jérusalem. Parfois, il nous arrive, frères et sœurs, après avoir trébuché sur un péché, de se poser la question, est-ce que je suis récupérable? Ça fait le xième fois que je retombe dans le même panneau. Est-ce que Dieu peut me récupérer? Est-ce qu'il peut me sauver? Est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Eh bien, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut nous ramener à la vie saine, à sa voix, la voix qu'il nous montre. Et il le fait par l'effet de guérison du Saint-Esprit, l'effet de guérison spirituelle. Il peut guérir les plaies et les séquelles qui sont laissées par nos erreurs et par nos péchés. Et il va finalement guérir par cette eau qui représente son Saint-Esprit. Il va guérir les eaux qui sont amères maintenant ou qui sont salées maintenant. Et partout où vont passer ces eaux-là, tout vivra. Romains chapitre 11 nous donne une promesse que nous allons revenir à la vie par la présence du Saint-Esprit en nous. Romains chapitre 8, verset 11. Regardons comment Dieu exprime cela. Romains chapitre 8, verset 11. « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Si nous avons le Saint-Esprit de Dieu, si nous avons reçu ce don de la part de Dieu, et si nous nous soumettons à l'influence du Saint-Esprit, eh bien, Dieu promet qu'il va nous ressusciter. Le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, notre soumission au Saint-Esprit, est la promesse que nous allons être ressuscités. Nous allons revenir à la vie, cette fois-ci la vie éternelle, par l'activité du Saint-Esprit. Dieu va se servir de son Esprit pour nous accorder l'immortalité. Promesse de revenir à la vie par le Saint-Esprit de Dieu. Troisième point, troisième comparaison entre l'eau et le Saint-Esprit. L'eau doit être activement recherchée, surtout en Israël. Il faut le chercher. Il n'y a que 20% du pays qui est arable naturellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a des points d'eau ça et là, mais le pays n'est pas bien arrosé naturellement. Genèse chapitre 26 nous donne un exemple. Genèse 26. À partir du verset 17. Genèse 26, verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les puits étaient tellement importants qu'on donnait des noms aux puits. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits du nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il s'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Oui, les difficultés qu'avait Isaac d'avoir simplement un puits d'eau. Les puits étaient si rares qu'on se disputait avec ses voisins pour savoir à qui étaient ces puits. Il a dû le chercher activement. Ça nécessitait même un très gros effort pour creuser ces puits. Quand nous avons voyagé en Israël, nous avons vu des puits, des citernes creusées et soigneusement entretenues. Nous avons vu à Petra, en Jordanie, un endroit où il ne pleut que 2 ou 3 ou 4 jours par année, c'est tout. Les Iduméens qui l'ont habité, ils ont construit un ensemble de cachements et de tuyaux. C'est très impressionnant de voir des milliers d'années après, c'est presque fonctionnel, pas tout à fait, mais presque, encore aujourd'hui. Et ils cherchaient à canaliser les eaux de pluie, quand ils tombaient, vers d'énormes citernes, et avec seulement, par la nature des pierres tout autour, cette eau pouvait être captée et envoyée dans des citernes. Et ils arrivaient à soutenir une population allant jusqu'à plus de 100 000 personnes, simplement par 2 ou 3 jours ou 4 jours de pluie par année. Mais ils ont dû effectuer un effort incroyable pour pouvoir construire tout cela, tant l'eau est nécessaire à la vie. Ils ont activement cherché, comme Isaac l'a fait, pour pouvoir avoir une source d'eau sûre. Regardez avec moi maintenant psaume 143, s'il vous plaît. Psaume 143. Nous commençons au verset 5. Psaume 143, verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur tous tes ouvrages, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Comme une terre desséchée. Je pense que nous avons tous eu l'expérience de regarder ce qui se passe quand une terre desséchée reçoit de l'eau. Ben, elle absorbe l'eau de façon presque, on dirait presque désespérée. Cette eau est absorbée. David était ainsi avec son contact avec Dieu. Il se considérait comme une terre desséchée. Le contact qu'il recevait de la part de Dieu, il absorbait aussi vite. Il ressentait le besoin. Est-ce que nous, frères et sœurs, nous ressentons ce besoin à la façon de David, de chercher activement ce contact avec Dieu? Nous le cherchons par la prière, par l'étude de la Bible, mais nous devons aussi chercher activement à être guidés par son Saint-Esprit, de comprendre quelle est la volonté de Dieu et de pouvoir le mettre en pratique. Nous voulons être comme une terre sèche qui absorbe l'eau quand nous absorbons le contact avec Dieu et l'influence de son Saint-Esprit. Regardons aussi Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 9. Jésus dit, « Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Ça, c'est une part de notre responsabilité, c'est de demander ceci à Dieu. Demander qu'il renouvelle son Saint-Esprit en nous. Et dans ce contexte, Jésus-Christ dit, demandez et il vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et ça ne devrait pas être demandez et vous donnera, ça devrait être demandez. Nous devons vraiment demander avec ferveur, conscient de notre besoin d'être guidés et fortifiés par Dieu. Nous devons rester toujours conscients de notre besoin du Saint-Esprit et demander régulièrement à Dieu. Je dirais tous les jours, à chaque fois que nous nous mettons à genoux pour notre prière habituelle de jour, nous devrions demander à Dieu de renouveler son Saint-Esprit en nous pour que nous puissions être guidés et fortifiés par notre Père Céleste. Un quatrième point concernant l'eau comparée au Saint-Esprit. En ancien Israël, l'eau n'était suffisamment disponible que par l'obéissance à Dieu. Nous l'avons touché un peu à ça dans l'introduction. En ancien Israël, l'eau n'était suffisamment disponible que par l'obéissance à Dieu. Lisons Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26, à partir du verset 3. Lévitique 26, à partir du verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. à peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. La pluie était en quelque sorte un examen continu, un contrôle continu qui jaugeait leur soumission à Dieu, leur obéissance à Dieu. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que dans les voies de ce monde, il n'y a pas de véritable vie. Il y a des sensations, il y a des plaisirs parfois, il y a des peines aussi, mais il n'y a pas de vie véritable et durable. Tout ce qu'il y a de façon ultime, c'est la mort. Alors nous devons comprendre l'importance d'obéir à Dieu. C'est seulement en suivant ses directives, en acceptant son don gratuit, auquel il pose quelques conditions, que nous pouvons finalement hériter la vie éternelle. Il y a un passage important que nous devons lire ou relire maintenant également dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, verset 32, souligne un élément important pour nous de comprendre si nous voulons être remplis et guidés par le Saint-Esprit. Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et en partie, c'est pour ça que les pharisiens, les sadducéens n'avaient pas reçu le don du Saint-Esprit. Parce que, en tant que groupe, ils ne voulaient pas vraiment obéir à ce que Dieu disait. Ils avaient leurs coutumes, ils cherchaient la prééminence, ils se mettaient eux-mêmes à la première place dans ce qu'ils cherchaient dans la vie. Mais nous devons comprendre que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si nous vivons dans le désordre, s'il y a un péché perpétuel dans lequel nous vivons, nous avons abandonné la lutte pour le contrecarrer, pour l'extirper de nos vies, nous ne pouvons pas compter sur le rafraîchissement du Saint-Esprit dans nos vies. Dieu ne va jamais nous abandonner, mais si nous retombons dans les voies du monde, nous avons abandonné Dieu. Et là, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, non pas à ceux qui ne lui obéissent pas. Donc ça, c'est un quatrième point. En Israël ancien, l'eau n'était suffisamment disponible que par l'obéissance à Dieu. Et nous devons comprendre que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est ce que Pierre a dit ici. Cinquième point. Nous avons besoin d'une provision continuelle en eau où nous perdons nos forces. Et nous avons besoin d'une provision continuelle dans le Saint-Esprit également où nous allons perdre nos forces spirituelles. Nous ne sommes pas comme des chameaux quand il s'agit de l'eau. Les chameaux peuvent boire, un chameau peut boire jusqu'à 100 litres d'eau à la fois. Et en fait, c'est un mythe qui stocke l'eau dans leur bosse. Ce n'est pas vrai. C'est simplement le fait que le corps utilise l'eau de façon très très efficace, beaucoup plus efficace que le corps humain. Nous ne pouvons pas emmagasiner ou stocker dans notre corps assez d'eau pour des semaines ou des mois, comme peuvent le faire des chameaux. Nos métabolismes ne sont pas aussi efficaces dans l'emploi de l'eau que nous ingérons. Chaque jour, nous perdons constamment de l'eau. Je vous ai parlé de ça avant. Nous perdons de l'eau quand nous respirons, quand nous transpirons, et les autres pertes que nous connaissons. Nous perdons 1,5 litre par jour. Veillez à ce que les liquides perdus soient reconstitués en temps opportun, et que notre corps ou nos corps soient correctement hydratés, est essentiel pour avoir une bonne santé et pour que le corps fonctionne. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons vivre qu'entre 5 et 7 jours sans apport d'eau. Et nous ne pouvons pas vivre très longtemps non plus si le Saint-Esprit n'est pas renouvelé en nous, vivre de façon spirituelle. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Nous commençons au verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, dit Paul, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce passage nous montre comment nous prenons des forces spirituelles. Nous prenons des forces spirituelles quand Dieu nous fortifie dans notre fort intérieur, dans l'homme intérieur. La force spirituelle ne peut venir que de Dieu, ne peut venir que par son Saint-Esprit, par lequel Dieu œuvre en nous pour nous fortifier. Et la Bible nous explique, nous montre que cette fortification doit se faire, devrait se faire au jour le jour. Tous les jours, nous avons besoin que notre Père renouvelle en nous son Saint-Esprit. Prenons 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, et ça se fait tout doucement quand nous vieillissons, notre homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme intérieur se renouvelle, nous avons déjà vu comment ça se passe, c'est par la force de Dieu en nous, son Saint-Esprit qui agit en nous, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, au jour le jour. Dieu doit renouveler ce qui se passe en nous, il doit nous fortifier, il doit veiller à notre fortification, à notre développement spirituel. Dans 2 Rois chapitre 20, il y a quelque chose d'intéressant qui est mentionné, 2 Rois chapitre 20, concernant l'eau à Jérusalem. 2 Rois chapitre 20, verset 20. Là, nous lisons, « Le reste est des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. » Ézéchias a pourvu une source d'eau à l'intérieur des murs de la ville. Il n'y avait pas de source naturelle à l'intérieur des murs de la ville de Jérusalem. Alors, il a fait, en fait, creuser un tunnel depuis une source camouflée à l'extérieur des murs et une piscine à l'intérieur de la ville. Et il y a une trentaine d'années, 35 ans, plus ou moins, et ils ont découvert ce tunnel et ils l'ont déblayé à Jérusalem. D'ailleurs, c'est un projet auquel plusieurs de mes collègues de classe ont travaillé, puisque beaucoup d'étudiants dans le Maslow College étaient volontaires pour travailler dans une fouille dans la cité de David. Et une partie de ce qu'ils ont fait, c'était de creuser pour vider le tunnel d'Ézéchias. Donc, ce dont nous lisons ici, on peut le traverser aujourd'hui. Les touristes peuvent le faire. On vous donne une petite lampe de poche et il n'y a pas d'électricité dedans, évidemment. Et vous traversez, c'est très long. Ça, pas loin d'un kilomètre de longueur, si je me souviens bien. Assez long. Et ils l'ont trouvé. Mais la nécessité de creuser tant de distance à même la roche montre à quel point c'était important d'avoir de l'eau disponible, d'avoir cette eau disponible. Donc, il a travaillé fortement. Nous aussi, nous devons être préparés, nous devons veiller à l'avance pour maintenir le contact qu'il nous faut avec Dieu. Cette préparation se fait à l'avance, cette préparation se fait continuellement. Ce n'est pas une fois qu'on arrive devant une épreuve qu'on dit « Hop, vite !» Il faut renouveler le Saint-Esprit, je dois y aller demander à Dieu. Non pas que nous ne pouvons pas demander, mais si nous faisons des choses à la va-vite à la dernière minute et nous ne sommes pas préparés à l'avance, ça risque de ne pas se passer aussi bien que possible. Nous devons avoir une provision quotidienne du ce renouvellement du Saint-Esprit. Romains chapitre 12 également. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment cela se fait? Ça se fait par l'activité du Saint-Esprit. Ce renouvellement doit avoir lieu jour après jour après jour, pour nous aider à voir clair, pour nous aider à ne pas reglisser dans les voies du monde. On doit toujours voir quelle est la ligne entre la voie de Dieu et celle du monde. Et ça nécessite une acuité constante. On doit constamment faire attention à cela. Nous ne voulons pas nous promener dans la vie dans un état constamment affaibli spirituellement parce que nous avons négligé ce contact, ce qui est nécessaire pour avoir cette provision continuelle. On ne va pas à l'hôpital relâcher un malade, le mettre dans la rue en disant « il va vivre au moins 2 ou 3 jours, hein, il ne mourra pas aujourd'hui, donc on va le décharger ». Ce n'est pas ce qu'on fait. On continue jusqu'à ce que le malade soit complètement guéri, ce qu'il soit en bonne santé. Et nous ne voulons pas traverser la vie dans un état affaibli en disant « je ne vais probablement pas mourir aujourd'hui, mais peut-être dans 2-3 jours ». Nous voulons être en pleine santé, plein de vigueur spirituelle. Et pour cela, nous avons besoin d'une provision, un renouvellement continuel, hebdomadaire, journalier du Saint-Esprit de Dieu. Sixième point, sixième parallèle. Pour avoir cette aide, il faut rester en contact avec la source. Pour recevoir l'eau, nous devons être en contact avec une source d'eau, n'est-ce pas? On ne peut pas porter tout ce qu'il nous faut avec nous, c'est lourd. On doit revenir à une source d'eau régulièrement. On doit rester en contact. Et c'est similaire, c'est pareil avec Dieu. Nous devons rester en contact avec lui. Dans Deutéronome chapitre 17, Dieu avertit Israël, Deutéronome 17, verset 18, en parlant du roi du pays. Deutéronome 17, verset 18, Dieu a dit, un jour vous allez vous établir un roi. Il leur a dit d'avance que ça serait dans leur cœur. Et quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Dieu avait averti que les rois ne devaient pas se séparer de leur contact avec leur Créateur. S'ils le faisaient, leur cœur allait s'élever, les problèmes allaient suivre. Dieu avertit les rois, ne vous éloignez pas de moi. Si vous vous éloignez de moi, vous allez avoir des problèmes. Et c'est pareil pour nous sur le plan spirituel. Si nous nous éloignons de la source de notre force spirituelle, eh bien nous allons rencontrer des problèmes graves également. Jean chapitre 15, verset 1. Jean chapitre 15. Verset 1. Ce qui nous lie à Jésus-Christ, ce qui nous attache à lui, c'est le lien du Saint-Esprit. Je suis le vrai cep, verset 1, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Nous devons rester en contact avec la source de notre force spirituelle. Et la source de notre force, c'est Jésus-Christ, et le lien, c'est le Saint-Esprit. Jésus œuvre en nous par ce Saint-Esprit. Il vit sa vie en nous à travers l'Esprit de Dieu. Pour avoir l'aide qu'il nous faut sur le plan spirituel, nous devons rester en contact avec la source de notre force spirituelle. Tout comme nous devons revenir aux sources d'eau, soit bouteille, soit autre chose, tous les jours. Et nous devons faire de même avec notre contact avec Dieu. Le septième et le dernier point que nous allons voir aujourd'hui concernant cette parallèle, cette analogie, l'eau doit couler pour être vivante. L'eau doit couler pour être vivante. Vous avez vu, je suis sûr, des mares d'eau stagnante. Il y a des vases, souvent des algues. On n'a pas très envie de le boire. Certaines personnes y sont obligées parfois, mais c'est pas l'eau qu'on chercherait en premier lieu, n'est-ce pas? L'eau comme ça peut être avariée, on l'évite. Par contre, si l'eau est coulante, elle est vivante. Et là, c'est beaucoup plus sûr de pouvoir le boire. C'est plus invitant également. Eh bien, dans Jean chapitre 7, Jésus a dit quelque chose. Jean chapitre 7, que nous devons considérer dans ce contact. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit de Dieu doit couler de nos seins comme des eaux vives, doivent jaillir. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Autrement dit, l'Esprit par lequel Dieu œuvre en nous, eh bien, ça devrait passer par nous et les effets devraient être ressentis par d'autres personnes. Des eaux vives. Nous ne pouvons pas simplement contenir le Saint-Esprit en nous. Les effets devraient être ressentis par d'autres personnes. Ces eaux doivent jaillir de nous et éclabousser d'autres personnes de façon joyeuse, si je peux suivre l'analogie un peu, autour de nous. Le Jourdain, qu'on appelait fleuve à l'époque, c'est presque pas plus qu'un ruisseau maintenant, le Jourdain, parce qu'on tire beaucoup d'eau, c'est nécessaire pour les pays aux alentours. Le Jourdain coule du lac de Galilée à travers la Galilée, à travers le lac de Galilée, il entre dans le nord et ressort dans le sud. Mais lorsque le Jourdain arrive à la mer Morte, les eaux s'arrêtent, ne peuvent plus couler, et elles meurent. Elles deviennent toxiques, ces eaux-là. Si vous buvez un petit peu, vous allez être malade, vous pouvez même en mourir, tellement la toxicité est intense. Mais avant d'entrer, avant de s'arrêter, les eaux sont vivantes. C'est autre chose. Et nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu puisse passer en nous, faire son excellent ouvrage, et puis les effets devraient être ressentis par d'autres personnes. Revenons quelques pages en arrière dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 14. Prenons le verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau physique, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Nous pouvons, avec l'aide de Dieu, à la force de Dieu, devenir de telles fontaines. Quand Dieu agit, quand Jésus-Christ vit sa vie en nous, par le Saint-Esprit, nous pouvons devenir des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Et ça devrait être le cas. C'est une bonne question de se poser, à ce moment de l'année, est-ce que je suis vraiment une bénédiction pour ceux qui m'entourent? Si oui, comment? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste en moi vis-à-vis d'autres personnes? L'eau doit couler pour être vivante. Le Saint-Esprit doit bouger pour être le plus efficace possible. Zacharie 14, verset 8, pour terminer. Zacharie, chapitre 14, verset 8. Zacharie 14, verset 8. En ce jour, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Dieu promet ces eaux guérisseuses dans le monde à venir. L'eau aura toujours une grande importance par son symbolisme et par l'effet physique nécessaire pour les êtres humains. On apprécie beaucoup plus l'eau au Moyen-Orient ou dans les endroits et des pays chauds. Je peux vous dire que jusqu'à ce point-là, j'avais jamais autant fait attention à l'eau que quand j'y étais. Il y a des vendeurs d'eau au Moyen-Orient qui le dispensent dans la rue. Ils vous vendent un verre d'eau, un verre à la fois. Eh bien, nous devons en quelque sorte être des distributeurs d'eau spirituelle également. Nous devrions dispenser l'amour de Dieu de différentes manières aux gens qui nous entourent. Pour l'instant, frères et sœurs, nous habitons un monde spirituellement déshydraté. À nous de faire en sorte que les eaux vives du Saint-Esprit de Dieu puissent couler en nous, à travers nous et vers d'autres personnes. Alors, à chaque fois que nous buvons de l'eau, la prochaine fois que vous prenez un verre d'eau, un gorgé d'eau, eh bien, rappelez-vous aussi notre besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui doit être renouvelé en nous, afin que l'œuvre du Saint-Esprit, accomplir la volonté de Dieu, puisse s'achever en nous.